soulagement à Biarritz. Donald Trump s'est montré plus conciliant que de coutume et les dirigeants du G7 peuvent afficher une relative unité. On fait tout de suite le bilan avec Louise Baudet. Les pays du G7 débloquent une aide d'urgence pour lutter contre les incendies qui ravagent l'Amazonie. À Bruxelles, des écologistes manifestent contre la politique du président brésilien Jair Bolsonaro. Le gouvernement de Hong Kong dénonce une escalade d'actions illégales et violentes commises par des manifestants radicaux. Valérie Crova a rencontré des militants pro-démocratie qui ne croient plus à la non-violence. Ce sera le dossier de ce journal. Et puis à l'approche de la rentrée, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'efforce de rassurer les syndicats d'enseignants. Ça n'est pas encore gagné. Et si l'on commençait ce journal sur une note optimiste? À Biarritz, les dirigeants du G7 se félicitent des avancées enregistrées selon eux au cours de ces 3 jours de sommet. Le président américain Donald Trump parle même de succès et salue le travail accompli par son homologue français. Louise Baudet, vous avez suivi pour France Culture la conférence de presse donnée par les deux présidents côte à côte, deux présidents en apparence très satisfaits.
Oui, des regards parfois un peu tendus, mais de solides poignées de main et une accolade chaleureuse à l'issue de la conférence de presse commune. Photo réussie donc et accord sur la taxation des GAFA. C'est le résultat concret de ce G7. Vous le savez, la France veut taxer les géants du numérique à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires. Les États-Unis, très mécontents, menaçaient en mesure de rétorsion de surtaxer les importations de vin français. Eh bien, à entendre Emmanuel Macron, tout est résolu et il s'en félicite.
Ce qui est important de dire ici, c'est qu'on a trouvé un accord qui est bon de part et d'autre, que ce faisant, on permet de régler des situations internationales qui étaient extrêmement négatives et qu'on modernise le système fiscal international ensemble. On travaille à des objectifs communs avec un esprit de coopération et je pense que c'est extrêmement important.
Alors dans le détail, un accord international sur la taxation des GAFA doit être trouvé dans le cadre de l'OCDE en 2020 et le jour où on aura cette fiscalité internationale, eh bien la France supprimera sa taxe et même le fisc français remboursera la différence. Un accord qui est bon de part et d'autre, s'est réjoui le président français.
Sur les autres sujets, Louise, des avancées concrètes ont-elles été obtenues?
Alors sur la question iranienne, Emmanuel Macron a obtenu un bouger, conséquence de sa rencontre inattendue hier avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Pour le président français, les discussions au G7 créent les conditions d'une rencontre et donc d'un accord entre les présidents américains et iraniens. Donald Trump le confirme lui-même, il est prêt à rencontrer Hassan Rouhani si les conditions s'y prêtent.
Si les circonstances étaient réunies, je serais certainement d'accord. Mais en même temps, ils doivent jouer le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Parce que s'ils le font, ils seront confrontés à une réponse très violente de notre part. Il n'y a pas le choix.
Alors on ne se refait pas, vous l'entendez, le ton reste menaçant. Emmanuel Macron le concède lui-même, il faut être toujours prudent et humble. Reste que le président français a obtenu ce qu'il voulait, se poser en médiateur dans la crise avec l'Iran et afficher des avancées à l'issue de ce G7. Au-delà des mots, la photo compte, celle d'un président américain tout sourire, rendant hommage au travail de son homologue. Voilà Donald Trump qui félicite Emmanuel Macron pour son travail incroyable, loin des grimaces et des mauvaises manières accumulées le 11 novembre dernier avec, rappelez-vous, force tweet très désagréable du président américain. Reste à savoir si de ce côté, Donald Trump va réussir à se retenir dans les prochaines heures.
Et merci Louise Baudet, sujet abordé aujourd'hui par les dirigeants des pays du G7, le sort de la forêt amazonienne menacée par de violents incendies. Ils ont annoncé une aide d'urgence d'au moins 20 millions de dollars. Cette aide doit notamment permettre de financer le déploiement de Canadair. Et Emmanuel Macron annonce des soutiens militaires dès les prochaines heures dans la région. Annonce accueillie avec un certain mépris par le président brésilien Jair Bolsonaro. Ce matin justement, des militants écologistes s'étaient rassemblés à Bruxelles devant l'ambassade du Brésil pour dénoncer la politique du chef de l'État brésilien. Rappelons que depuis le début de l'année, près de 80 000 incendies ont été recensés dans le pays. Et pour demander à la communauté internationale de se mobiliser contre ces incendies et contre le réchauffement climatique. Une manifestation qui s'est organisée en un temps record via une page Facebook à l'appel de l'organisation écologiste Extinction Rébellion. On retrouve sur place Angélique Bouin.
Mettons le feu au capitalisme, brûlons les fascistes, pas la forêt. Au milieu des drapeaux et pancartes, aux slogans variés, ils sont plusieurs centaines à avoir crié sous les fenêtres de l'ambassade. Pour Christophe, il faut un électrochoc.
Révolution, oui, c'est de ça dont on a besoin. Parce qu'on voit très bien que le système démocratique, le système de gouvernance qu'on a à l'heure actuelle, n'est pas à la hauteur des enjeux, ne l'a pas été pendant 50 ans et ne le sera jamais. Donc on doit changer ce système-là et révolution, oui, on n'a pas le temps, on a quelques années pour faire ça. Le faire par les urnes, c'est complètement exclu. Faire un changement de constitution, si on avait encore 40 ans, peut-être qu'on pourrait le faire, mais ce n'est pas le cas. Donc oui, révolution dans ce sens-là.
À ses côtés, Juliette, porte-parole de Greenpeace Belgique. Pour elle, la mobilisation citoyenne actuelle est inédite.
Depuis l'année dernière et les premières grandes vagues de chaleur, effectivement, beaucoup de gens sont inquiets, se rendent compte que les conséquences du réchauffement climatique se font ressentir aujourd'hui et aussi sur le continent européen. Il y a des feux de forêt en Amazonie, en Bolivie, mais aussi en Sibérie, des choses qui n'ont jamais été vues auparavant. Et donc, on va continuer les mobilisations avec toujours plus de gens, tant qu'il est possible et tant que les politiques ne nous entendent pas.
Cette recrudescence est le résultat des mesures prises par le gouvernement de Jair Bolsonaro.
Une manifestation au cours de laquelle le président Bolsonaro a été copieusement sifflé.
Angélique Bouin, à Bruxelles, une manifestation possible dans la capitale belge, mais pas à Biarritz, totalement verrouillée le temps du G7. C'est donc à Hendaye et Irun que les opposants au G7 avaient organisé leur contre-sommet de mercredi à vendredi dernier. Des responsables de ce mouvement ont tenté aujourd'hui une dernière action symbolique. Ils ont essayé à la mi-journée de pénétrer jusqu'à la zone rouge du sommet du G7 dans le centre de Biarritz pour accuser publiquement les 7 dirigeants d'illégitimité. Mais ils ont été rapidement stoppés par les forces de l'ordre. Rosalie Lafarge.
Quelques centaines de mètres auront suffi. On est encore loin des zones contrôlées, mais la police est là et ferme la rue. Le petit cortège tente de négocier.
On a ici un manifeste de proposition. On aimerait le remettre aux responsables qui sont dans ce palais de cristal.
Ce ne sera pas le cas, vous resterez ici. Il y a un responsable de la préfecture qui est là, qui peut se voir remettre le document que vous avez dans la main.
Impossible d'aller plus loin.
Donc on est quelques manifestants totalement non violents, mais on leur fait quand même très 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 peur, puisque devant nous on a plein de police nationale. Il y a un manifestant pour un CRS.
C'était prévisible et c'est en partie cela que veulent dénoncer les anti-G7.
Nous les accusons d'installer pendant ce G7 un climat ultra sécuritaire.
Aurélie Trouvé est la porte-parole de la plateforme alternative G7.
Nous voulions nous rapprocher de manière pacifique de ce sommet officiel. Vous voyez, nous sommes quand même bloqués très très vite. On aurait voulu aller jusqu'au bout, nous, de manière pacifique.
Les manifestants s'assoient dans le calme face au cordon de sécurité, crient quelques slogans.
Le monde déteste le G7.
Avant de repartir, déçu mais pas abattu à l'image de Dany, des années de militantisme dans les jambes.
Vous savez, on a eu des gros espoirs en 68, on a eu l'impression à un moment donné qu'on allait pouvoir bouger les choses. On les a effectivement bougées un peu, depuis on a été rattrapés par des gens qui n'ont de but que le profit. Moi j'ai pas envie de me décourager complètement. Bien sûr il y a débat, mais il faut que je revienne, sinon je meurs.
Malgré leur petit nombre du jour, les organisateurs se félicitent d'avoir rassemblé, selon eux, plus de 5000 personnes pendant les 3 jours d'ateliers et de débats du contre-sommet.
Rosalie Lafarge, à Biarritz. Vers la fin du contrôle des capitaux en Grèce, cette mesure avait été imposée il y a 4 ans au cours du bras de fer entre le gouvernement dirigé alors par Alexis Tsipras et les créanciers de la Grèce, Union européenne et FMI. Aujourd'hui, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé au Parlement que les restrictions portant sur le contrôle des capitaux placés dans les banques allaient être levées. La mesure devrait entrer en vigueur le 1er septembre après l'adoption d'un amendement en ce sens. C'est un symbole fort, Annabelle Grelier.
Oui, un symbole supplémentaire de normalisation financière de la Grèce après son retour sur les marchés l'année dernière. Rappelons quand même que la liberté de mouvement des capitaux est inscrite dans l'acte unique européen de 1986. Donc c'est un symbole pour la Grèce, mais aussi pour l'Union européenne. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour l'économie grecque? Peu de choses, à vrai dire. Ce contrôle des capitaux avait été mis en place en juin 2015, vous l'avez dit Aurélie, quand le gouvernement de Tsipras s'interrogeait quant à sortir de la zone euro. Donc il permettait à l'État grec d'empêcher que les épargnants, petits et gros, sortent leur argent et le transfert sur des comptes à l'étranger. Donc, surtout de le limiter, parce qu'il le faisait déjà. Mais quand c'est massif, c'est catastrophique, parce que cela mène le pays à une crise de liquidité. Aujourd'hui, le risque de la sortie de la zone euro n'étant plus de mise, le gouvernement Mitsotakis peut en effet mettre fin à cette disposition. C'est un symbole aussi politique, cela envoie en plus un signal positif aux investisseurs étrangers. En revanche, l'État se prive quand même d'un outil de lutte efficace contre la fraude fiscale. Et là, ce n'est pas les petits épargnants, vous imaginez, qui sont visés, mais plutôt les armateurs. parce que le contrôle des capitaux avait l'avantage de donner à l'État un droit de regard sur les fonds transférés à l'étranger. Mais bon, fataliste vis-à-vis des fortunes des amateurs, les Grecs ont coutume de dire que ce qui devait être placé à l'étranger l'était depuis longtemps, ce qui rejoint à peu près les analyses des experts économiques.
Annabelle Grelier, nous partons maintenant à Hong Kong, où manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés hier. En réponse à des jets de cocktails Molotov, les policiers ont recouru aux canons à eau et aux gaz lacrymogènes. 86 personnes, dont plusieurs mineurs, ont été arrêtées. Cela fait maintenant près de 3 mois que les Hongkongais manifestent contre la mainmise de Pékin sur leur société et pour défendre leur liberté, ils manifestent parfois violemment, comme on l'a vu à l'aéroport de Hong Kong ou dans les rues de la ville avec de véritables scènes de guérilla urbaine. Valérie Crova et Jérémy Thuil sont allés à la rencontre de jeunes Hongkongais radicaux.
Nous l'appellerons Choi, il n'a que 15 ans. Nous avons rendez-vous dans notre hôtel, question de sécurité. Choi nous montre son équipement quand il va aux manifestations. Des protections pour les bras, un casque, un masque contre les gaz lacrymogènes et des gants.
C'est pour quoi faire en fait ?
Si je suis à la manifestation et que je laisse mes empreintes, ils peuvent me retrouver.
Choi est de ceux qui sont en première ligne. Il s'est décidé à devenir un combattant, comme il le dit, après avoir vu un documentaire sur Netflix.
C'était en Ukraine. Il y a eu le même type de manifestation qu'ici. Plein de gens sont morts uniquement pour avoir protégé des choses qu'ils étaient en droit d'avoir. Ce que j'ai appris, c'est n'aie pas peur de mourir.
Don't be afraid to die.
La violence, c'est son moyen d'expression face à un gouvernement représenté par une femme, Carrie Lam, désignée par Pékin, qui fait la sourde oreille aux revendications exprimées par les citoyens de Hong Kong.
Il y a quelques jours, il y avait plus de 1,7 million de manifestants qui sont sortis pacifiquement. On a fait ce qu'elle attendait de nous, mais elle n'a pas fait ce qu'on attendait d'elle.
Jusqu'à où vous êtes prêt à aller ?
Jusqu'à ce que toutes nos revendications soient acceptées.
Parmi ces revendications, il y a le départ de la chef de l'exécutif et la possibilité de choisir directement ceux qui les dirigent. Choi se considère comme un citoyen hongkongais, mais pas chinois.
Est-ce que vous connaissez une autre ville qui ait son propre drapeau, qui ait sa propre équipe aux Jeux Olympiques ?
Est-ce que le but de ce mouvement, c'est de devenir indépendant ?
On n'a jamais dit que notre but, c'est d'être indépendant. Je déteste la Chine, mais on en a besoin.
Alice est moins radicale que Choi, même si elle comprend que certains utilisent la violence pour exprimer leur colère. Elle a 26 ans. Elle était des manifestations en 2014, lorsque les Hongkongais ont occupé pendant 2 mois des quartiers de la ville pour demander déjà à l'époque l'élection de leur chef du gouvernement au suffrage universel.
Nous avons appris de nos échecs du mouvement des parapluies. Nous étions trop pacifiques à cette époque et nous n'étions pas assez exigeants. Nous ne poussions pas assez le gouvernement. Donc il n'était pas obligé de nous répondre ou de faire quoi que ce soit. Cette fois, nous sommes en fait plutôt très surpris de pouvoir être encore très unis et de voir que la flamme brûle encore. J'espère en fait que ce soit une révolution et pas seulement un mouvement pour faire changer les choses.
Les manifestants l'ont annoncé, la mobilisation continuera tant que le gouvernement n'accédera pas à leurs demandes. Dans quelques jours, les cours doivent reprendre dans les universités de Hong Kong. Les étudiants sont invités à les boycotter.
Valérie Crova et Jérémy Thuil, envoyés spéciaux de France Culture à Hong Kong et à 18h20. Dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin s'interrogera sur l'efficacité des actions non violentes. Aux États-Unis, le procès de Harvey Weinstein est reporté à janvier 2020. Il devait se tenir à partir du 9 septembre prochain à New York, mais un juge de Manhattan a décidé ce report pour se donner le temps d'examiner de nouvelles accusations portées à l'égard de l'ancien producteur de cinéma. Harvey Weinstein qui disposera donc de 4 mois supplémentaires pour préparer sa défense. La correspondance de Grégory Phillips à Washington.
Durant cette courte audience devant le tribunal de Manhattan, Harvey Weinstein a plaidé non coupable des nouvelles accusations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui et pour lesquelles il a été inculpé il y a 2 semaines. Mais le juge en charge du dossier a décidé de prendre en compte un nouveau témoignage, celui de l'actrice Annabella Sciorra, connue pour son rôle dans la série Les Sopranos, qui accuse l'ancien producteur de l'avoir violée chez elle dans son appartement de Manhattan en 1993. Les faits sont prescrits, mais le bureau du procureur a demandé à ce que la comédienne soit entendue comme témoin. accordée. Simplement, le juge repousse le procès au 6 janvier 2020 pour donner plus de temps à la défense de l'ancien producteur. En revanche, les avocats d'Harvey Weinstein réclamaient aussi la délocalisation de ce procès, estimant que la pression médiatique notamment serait trop forte à New York. Le procureur s'y est opposé tout à l'heure et la cour d'appel, saisie sur ce point, ne s'est pas prononcée.
Peut-on espérer une rentrée scolaire apaisée? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, essaye de déminer le terrain en amont en rencontrant les organisations syndicales. Avant les vacances, le climat était particulièrement crispé, les syndicats accusaient le ministre de surdité, tandis que Jean-Michel Blanquer promettait des sanctions financières, voire disciplinaires, aux enseignants pratiquant la rétention des notes du bac. Aujourd'hui, il se dit ouvert au dialogue. Bonsoir, Hakim Kasmi.
Bonsoir, Elie Kiefer.
Alors, le ton change, mais sur le fond, les désaccords persistent et le SNUIPP, premier syndicat des enseignants du primaire, dénonce déjà des moyens insuffisants.
Oui, c'est du côté de la FSU qui a été reçu ce matin par Jean-Michel Blanquer et dont dépend le SNUIPP. On reconnaît un changement de ton de la part du ministre de l'Éducation qui se dit désormais favorable au dialogue avec les syndicats sur la question des retraites, de la formation et des salaires. Les enseignants restent attentifs et déterminés. Le SNUIPP attend donc des annonces concrètes de la part du ministère et ce, malgré les 2500 postes supplémentaires prévus cette année dans le primaire, notamment pour la mise en place du dédoublement en REP et en REP+, en CP et en CE1. Françoise Popineau, la secrétaire générale du SNUIPP.
Nous demandons évidemment un abaissement des effectifs dans toutes les classes, pas seulement grande section CP et CE1, même si nous saluons cette mesure, bien évidemment. Nous demandons effectivement de revoir la formation initiale afin qu'elle ne se fasse pas au pas de course, mais qu'elle prépare vraiment très sérieusement les enseignants à un métier exigeant. Il faut savoir que dans certains pays, la formation initiale dure 4 à 5 ans. Et nous avons aussi un autre levier important à actionner, celui des salaires. Nous sommes très en dessous des autres pays européens, très en dessous des autres salaires de la fonction publique. C'est une anomalie. Nous ne devons plus rester comme cela. Ces trois axes ont été actionnés par les pays qui réussissent mieux que nous. Donc il faut vraiment qu'on s'attelle à travailler ces éléments-là.
Autant de revendications qui seront mises sur la table demain après-midi, car le SNUIPP doit rencontrer Jean-Michel Blanquer.
Merci Hakim Kasmi. Et pendant que le ministre reçoit les syndicats, la première université d'été des enseignants et de l'éducation se tient à la cartoucherie de Vincennes jusqu'à mercredi. Débats, ateliers et projections abordent les sujets qui fâchent, comme les inégalités scolaires selon les territoires ou la souffrance au travail. Qui va prendre la présidence du parti Les Républicains? Trois candidatures ont été validées par la haute autorité du parti, Julien Aubert, Guillaume Larrivé et Christian Jacob. La campagne officielle va durer un mois et demi, jusqu'à l'élection par les 131 000 adhérents à jour de cotisation. Vote qui se fera par Internet le 12 octobre prochain. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
La campagne se lance donc, mais les enjeux sont limités.
Oui, des enjeux limités pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la nature de l'élection. Il s'agit bien d'élire le président du parti et non pas le futur candidat à l'élection présidentielle. Tous les impétrants s'y sont engagés. Ils se limiteront à remettre en ordre de bataille les troupes LR, que ce soit le chiracogoliste Christian Jacob, le giscardo-sarkoziste Guillaume Larrivé ou le séguino-pasqualien Julien Aubert. Une campagne qui va donc chercher à restaurer l'image du parti, à le recrédibiliser. Tous les coups ne seront donc pas permis. On peut s'en réjouir, mais craindre aussi un manque de relief et d'autant plus que le grand favori, Christian Jacob, qui a récolté près de 9000 parrainages d'adhérents contre un peu plus de 3000 pour ses challengers, est soutenu par des parlementaires d'horizons très divers. Interrogation se pose donc sur la future ligne. Enfin, les débats à venir ne risquent-ils pas de passer sous les radars de la recomposition politique en cours à droite? L'université d'été des LR à La Bolle samedi prochain sera précédée par deux événements de maires de droite Macron compatibles. L'association dissidente de la République des maires, fondée par le maire d'Angers, Christophe Béchu, et puis la France audacieuse, autre dérivée de cette satellisation à droite, se réunira vendredi prochain à l'initiative, cette fois-ci, de Christian Estrosi, le maire de Nice. Certains des trois candidats se préparent tout de même 5 à 6 déplacements par semaine, ils y croient, ne serait-ce peut-être que pour redonner confiance et surtout sécuriser le chemin très étroit sur lequel les LR se trouvent 3 mois après les européennes.
Merci Anne Fauquemberg. Étonnante découverte dans le Puy de Dôme, un alignement d'une trentaine de monolithes multimillénaires vient d'être mis au jour à Vermonton, entre Clermont-Ferrand et Issoire. Selon l'INRAP, l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, c'est la première fois que de tels alignements, cairns et statues menhirs, sont mis au jour en Auvergne et plus largement dans le centre de la France. Découverte réalisée dans le cadre des travaux d'élargissement de l'autoroute A75. Et au sein de l'alignement principal se trouve un menhir sculpté et grossièrement anthropomorphe avec deux petits seins. Soleil et nuages se partageront le ciel demain. Des averses, d'abord limitées au Pays Basque, gagneront ensuite l'ensemble des Pyrénées. Ciel gris en bord de Méditerranée, mais bleu sur un quart nord-ouest. Les températures minimales sont comprises entre 14 et 23 degrés. L'après-midi, il fera 21 à 25 degrés sur le littoral du nord-ouest, contre 30 à 36 dans le sud-est et sur le nord du pays. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.